Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série qui sera importante. Christ la lumière, jusqu'au retour de Christ le Messie. Le titre pour notre étude de ce matin, c'est la transmission de la lumière. Tout d'abord, chers amis, à la radio, à la télévision, aujourd'hui, chaque minute représente beaucoup d'argent. Et les speakers et speakerines doivent débiter presque une centaine de mots en une minute. Mais pour une étude biblique, on ne peut pas se permettre de parler comme des robots. C'est tout autre chose. Et je crois que vous le comprenez tous. Donc, je vais vous parler cette étude selon que le Saint-Esprit m'indique, m'aide, me guide, m'inspire. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un débit qui est calculé tant d'argent à la minute. Notre thème de ce matin sera la transmission de la lumière. L'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les créa à son image, celle d'Elohim. Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, nous dit « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Le mot « image » vient du mot hébreu « tselem », image, ressemblance, illusion. Puisque Dieu est esprit, rien d'immatériel ne peut le représenter. Ainsi donc, cette ressemblance doit refléter certaines de ses perfections. Lui, parfait en connaissance, en justice et en sainteté, et ayant autorité sur toutes ses créatures. Le mot « ressemblance » signifiant ressemblance et forme. L'homme perdit la gloire, et cela à cause du péché. Oui, Adam et Ève étaient en étroite relation avec Dieu. Il y avait une communion et un accord parfait entre eux. Ils étaient un, on peut dire vraiment un, spirituellement parlant, mais après la chute, tout a changé. L'homme a perdu la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 3, verset 23, car il a voulu se dérober aux yeux de Dieu et il n'y a eu plus, il n'a plus eu la même communion avec le Père Céleste. Désormais, il ne vivait plus éternellement. Il ne pourrait plus vivre éternellement, que ce soit bien clair, car la malédiction de la mort était sur lui. Et tout ça à cause du péché. Alors Jésus mourut et ressuscita afin de racheter, oui, de racheter et de sauver l'humanité de la malédiction de la chute. Et nous savons aujourd'hui que la gloire nous a été redonnée. Cette gloire comprend la pleine mesure de la lumière de Dieu. Regardons ensemble quelques versets qui nous montrent que la lumière perdue à la chute nous est restituée lorsque nous devenons enfants de Dieu. Le premier ou la première indication dans le Nouveau Testament qu'il y a pour l'humanité, l'espoir. Il y a l'espoir de restauration à la lumière. Et elle se trouve dans ces merveilleuses paroles de Jésus en Saint Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut se cacher. Aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous un boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise donc ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient, qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Toute la lumière donnée par Dieu à Adam avait pour seul but de le glorifier. Alléluia. C'est pour cette raison que Satan nous dépouilla de notre gloire. Il ne veut pas que nous ayons cette présence de Dieu en nous, parce que une fois cette gloire et cette lumière perdues, nous nous trouvons de nouveau dans les ténèbres de Satan. Souvenons-nous que la gloire du Seigneur est la lumière de Dieu, tout cela se trouve toujours ensemble. Nous lisons en Apocalypse chapitre 21 verset 23, et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau est sa lampe. La Shekinah, elle est là, la lumière divine. Le mot éclairer et diffuser des rayons, c'est ça que ça veut dire. Éclairer veut dire diffuser des rayons, briller, éclairer, faire voir et illuminer. Je ne peux pas toujours dire les mots en hébreu parce que je ne connais pas l'hébreu. Il a donc pour racine le mot phos, et il signifie éclairer spirituellement de la lumière éternelle qui ne pourra jamais s'éteindre. Alors que la gloire du Seigneur est rendue aux hommes déchus, notre être tout entier, corps, âme et esprit, seront éclairés. Jésus nous a dit que nous étions la lumière du monde et notre responsabilité est de répandre sa lumière sur toutes les nations du monde. Si nous tenons notre lumière cachée aux yeux des perdus, nous la mettons sous un boisseau, alors que Jésus-Christ nous a dit de la mettre sur le pied de lampe. Jésus révéla qu'il était la lumière de l'humanité lorsqu'il a dit en Saint Jean, chapitre 12, verset 35, « Encore un peu de temps, la lumière est au milieu de vous. Encore un peu de temps, la lumière, elle se trouvera encore au milieu de vous. Donc, marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres, scotia, ne s'emparent pas de vous. » Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc le mot signifie les ténèbres qui vont de pair avec le malheur, avec la misère et la ruine. C'est la conséquence du péché. Comment devenir enfant de Dieu ? Premièrement, Jésus-Christ nous a dit comment devenir des enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, c'est ce qu'il a dit, croyez à la lumière, afin que vous soyez fils de lumière. Saint Jean, chapitre 12, verset 34. Non, verset 36. Je répète, Saint Jean, chapitre 12, verset 36. J'ai des fois de la peine avec les chiffres. Donc, c'est par la foi en Jésus-Christ et en l'acceptant comme lumière du monde que nous devenons enfants de lumière. Nous devenons ce en quoi nous croyons. Deuxièmement, une autre clé pour devenir de véritables enfants de lumière se trouve dans Juges, chapitre 5, verset 31. Là, il est dit que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. L'amour se trouve dans la lumière, et lorsque son amour est répandu dans nos cœurs, nous sommes remplis de lumière et de gloire. C'est ce que voulait dire l'apôtre Jean en la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 11. Il a dit que celui qui haït, qui hait son frère, est dans les ténèbres. C'est vrai. La haine engendre les ténèbres de l'esprit. Ce sont donc les ténèbres spirituelles qui conduisent l'âme vers la misère et la ruine. Puisse Dieu, notre Père Céleste, aider chacun d'entre nous à guérir de toutes nos blessures, afin qu'il n'y ait aucune place dans nos esprits pour la haine et les ténèbres, car la moindre parcelle de ténèbres nous conduit à la misère et à la ruine. Il fut un temps où nous laissions toute forme d'amertume et de ressentiment remplir nos cœurs. Mais depuis que Christ est entré dans nos vies, il n'y a plus d'excuse pour que cet état de choses demeure. L'apôtre Paul dit « Vous étiez autrefois ténèbres » et c'est vrai, c'était mon cas. « Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de la lumière. » Éphésiens chapitre 5, verset 8. L'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique, « Vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Nous n'appartenons pas aux choses des ténèbres. Les choses mauvaises n'ont aucune place en nous, car nous sommes remplis de la lumière éternelle, celle qui ne pourra jamais s'éteindre. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Et troisièmement, la troisième clé pour devenir des enfants de lumière et par le moyen de la sainte parole de Dieu. Le Logos a de la puissance pour créer la lumière dans l'âme, même l'âme la plus ténébreuse, de la même manière qu'elle l'a fait lorsque Dieu parla au commencement de la création. Merci Seigneur. Dans le psaume 119, verset 130, là il est dit, « L'entrée de tes paroles illumine. » Et au verset 105, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » Beaucoup marchent dans les ténèbres faute de connaissance des Saintes Écritures et ils ne comprennent pas comment entendre la voix de Dieu. Quand nous marchons dans la droiture et dans l'obéissance à sa sainte parole, Nous sommes de plus en plus remplis de lumière, car le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Proverbe chapitre 4, verset 18. Je me trompe des fois avec le et la, parce qu'en allemand, on dit le soleil, n'est-ce pas? Ça, c'est le français. Mais en allemand, c'est die Sonne. Die Sonne. Et en français, on dit la lune. Et en allemand, on dit der Mond. Vous voyez comme ça change. Alors, on peut se fourvoyer quand on est de langue allemande comme moi. Bon, le peuple de Dieu ne devrait jamais vieillir en devenant avare. Résister à l'avarisme, résister à la tristesse, résister à devenir revêche et grêcheux, mais plutôt devenir beau, car la lumière qui brille intérieurement le rend de plus en plus rayonnant. Il devrait aussi devenir de plus en plus intègre et vrai, car celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Il s'écarte des ténèbres. Saint Jean chapitre 3, verset 21. Il est impossible de séparer la lumière de la vérité, car la lumière éclaire et révèle toute trace de péché secret, ainsi que les impuretés venant d'un esprit malhonnête. Chers amis, tous les saints anges sont des anges de lumière. Les autres, par contre, qui ont chuté, qui ont désobéi, qui ont été orgueilleux avec leur maître, ils sont devenus ténèbres. Ainsi, sachez que le seul moyen par lequel il peut, l'ennemi, duper les enfants de lumière est de se transformer, tout simplement, et se déguiser en ange de lumière. Satan apparaît souvent en ange de lumière, mais il n'est en réalité qu'une fausse merveille. Le mot « transformé » en grec, je ne sais plus, mais ça veut dire se déguiser, changer l'apparence extérieure. Donc Satan peut se transformer ou se façonner. Il peut se façonner, se transformer en ange de lumière, c'est-à-dire sans donner toute la ressemblance, sans en avoir l'essence, ce qui lui serait d'ailleurs impossible. Pourtant, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège pour ensuite devenir ses disciples. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ses ministres se transforment aussi en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. De chacun. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15. Donc l'apôtre Paul, il nous dit que toutes les œuvres de nous tous seront révélés et éprouvés par le feu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12 à 15. C'est cela même qui leur arrivera. Nous avons été transformés et transportés dans un royaume nouveau. Quoiqu'il fût un temps où nous vivions dans les ténèbres, et où nous étions même esclaves du prince des ténèbres, nous pouvons maintenant rendre grâce à Dieu qui nous en a délivrés au moyen de la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux Colossiens chapitre 1 verset 12 et 13, « Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes donc maintenant citoyens du royaume de lumière. Alléluia. Sa lumière nous pénètre, elle nous épanouit, elle nous bénit et nous guérit. Et elle nous transforme à l'image et à la ressemblance de cet Elohim qui nous a engendrés. Quels sont donc les avantages de la lumière? Premièrement, mieux connaître Dieu. Le plus grand des avantages que nous recevons de la lumière de Dieu venant habiter en nous est peut-être l'ouverture de l'intelligence sur les choses spirituelles et la capacité de mieux connaître Dieu et d'entendre son conseil. Et ce fut là le fardeau de l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Il pria que les yeux de leur cœur soient éclairés. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Le mot éclairé, il est lié à la racine phos, qui parle de cette lumière éternelle dans le sens spirituel. En d'autres termes, il s'agit de révélation et d'intelligence spirituelle, car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Deuxièmement, c'est de connaître l'avenir. C'est à la lumière de Christ que nous pouvons savoir les choses qui surviendront bientôt. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 et 5. L'apôtre Paul fait allusion à l'enlèvement, indiquant que les enfants de lumière seront prêts et dans l'attente du jour où Christ prendra son épouse avec lui. Troisièmement, nous devenons une lumière pour les nations. L'apôtre Paul savait qu'il était une lumière pour les païens. Dans Actes chapitre 13, verset 47, il dit « Car le Seigneur nous a commandé ainsi, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. » Cette vocation n'était pas seulement pour la vie de l'apôtre Paul, mais pour les nôtres aussi, nous qui sommes appelés à être une lumière pour tous les peuples de la terre. Nous vivons à une époque de grande iniquité et de méchanceté comme jamais. Et plus elle deviendra sombre, plus notre lumière brillera dans la pureté et la sainteté. L'apôtre Paul nous lance un défi afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération tortueuse et perverse parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires. Philippiens chapitre 2, verset 15. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avions parfois au Canada et ailleurs, je dis le Canada parce que une sœur en Christ m'en a parlé, alors il y avait des exercices de blackout, mais aussi dans toute l'Europe, au cours desquels toutes les sirènes de la ville se faisaient entendre et chacun devait immédiatement éteindre toutes ses lumières. J'ai aussi connu cela. Il était même défendu de se servir d'une lampe de poche, car la moindre lumière se voyait de loin. La nuit épaisse donnait à une simple allumette une grande luminosité et les bouts d'une cigarette même, allumée, pouvaient, qu'on le croit ou non, se voir à plus d'un kilomètre. Donc, de plus en plus, les choses se passeront alors que la nuit du péché s'assombrira en ces temps de la fin. Et nous autres, enfants de lumière, nous attirerons la lumière de la même manière qu'une lampe attire les papillons de nuit. Ésaïe prophétisa de la manière suivante au sujet des temps que nous vivons actuellement. Il a dit « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi, car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel. » Sur toi se lèvera l'Éternel, et même toute sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Le mot « lever » en hébreu veut dire « une hausse de lumière ». Une progression de lumière, et sa racine signifie émettre des rayons. Et quatrièmement, la lumière nous transforme à son image, à celle de notre Sauveur bien-aimé. Nous sommes appelés à être tout ce qu'il était et tout ce qu'il est. Et l'apôtre Jean dit, en ceci, et consommer l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. 1 Saint Jean, chapitre 4, verset 17. Grâce soit donc rendue à Dieu de ce que nous sommes constamment transformés à son image, alors que sa gloire et sa lumière nous habitent. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, en une image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Quoique nous vivons dans ce monde parmi des pécheurs, car notre cité est dans les cieux, tout aussi nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir, même toutes choses. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Donc, à mesure que nous laissons sa gloire et sa lumière œuvrer en nous, tout ce qui est de notre nature charnelle se soumettra au Seigneur. Est-il surprenant que nous ayons constamment les yeux tournés vers le ciel, d'où nous viendra notre Seigneur Jésus ? Celui qui transformera le corps de notre abaissement. Le mot abaissement signifie insensé, abaissé, humilié, de bas niveau et même vil. Donc nos corps ont en effet été abaissés par la chute. Et comment ? Ils ne sont pas encore retournés à leur état élevé originel, mais cela s'accomplira bientôt pour tous ceux qui sont dans l'attente et l'espérance, les yeux fixés, que nos yeux soient fixés sur le ciel. David vivait dans l'attente de cette merveilleuse restauration, car il dit « Moi, je verrai la face en justice quand je serai réveillé. » Je serai rassasié de ton image. » Psaume chapitre 17, verset 15. Ce mot « image » veut dire incarnation, image, ressemblance et similitude. Oui, David même savait qu'un jour il serait semblable au Seigneur, et c'est la merveilleuse espérance de tous ceux qui l'a justifié. Dieu a ordonné que la lumière soit communiquée aux enfants de lumière, afin que notre ressemblance originelle à Elohim nous soit restaurée. Chers amis, il est important de connaître la situation des perdus. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe: « Si aussi notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas pour eux. » Arrêtons-nous là pour regarder de plus près deux mots qui contiennent ces versets. D'abord, le mot « périr », « apolloumie », « apolloumie » signifiant « détruire », « tuer », temporellement ou éternellement, donc être détruit. Il vient de la même racine grecque Apollyon, l'ange de l'abîme, le destructeur. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Ainsi, ceux qui sont perdus sont dans une situation terrible qui n'a rien à voir avec perdre seulement son chemin, par exemple. Non, cela implique la destruction, c'est tout autre chose, une destruction violente. Par ailleurs, dans l'original grec, le mot pour penser en français signifiant perception et intelligence. Satan a aveuglé l'intelligence spirituelle de ceux qui le lui ont permis. Certaines personnes de très haut niveau intellectuel, très instruites et même qui ont du génie, se trouvent parmi les aveugles et de ceux qui manquent de perception. La raison en est que la connaissance suprême et la révélation sont données à l'esprit humain par le Saint-Esprit et que cela n'a aucun rapport avec son intellect naturel. L'évangile est donc puissant, puissant pour nous illuminer intérieurement. C'est le puissant message de l'évangile qui nous a ouvert l'esprit, nous transmettant intelligence et connaissance au niveau spirituel. La bonne nouvelle du salut a branché la lumière dans notre être intérieur, faisant de nous des enfants de lumière. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens: « Car vous étiez autrefois ténèbres, scrotos, vous étiez autrefois vaincus par les ténèbres d'esprit démoniaque, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Éphésiens chapitre 5, verset 8. Alors que nous prêchons l'évangile sous l'onction, la lumière s'allume dans les cœurs. Même si nous ne sommes pas appelés à prêcher, lorsque nous témoignons de la lumière de personne à personne, beaucoup peuvent individuellement sortir des ténèbres et venir à la lumière. Quelle est la responsabilité des enfants de lumière? Premièrement, c'est de marcher dans la lumière. Au privilège d'être enfant de lumière se joint la responsabilité de marcher comme tel. Nous avons l'ordre d'abandonner toute œuvre mauvaise, mensongère et cachée de ténèbres. Il ne doit y avoir que pureté dans notre être intérieur. Tout notre héritage est dans la lumière. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. Alors que nous demeurons dans la lumière, nous devenons automatiquement participants à l'héritage qu'il nous a destiné, non pas dans le futur, mais déjà dès maintenant. Seigneur, que le Saint-Esprit m'aide. Deuxièmement, veiller et être sobre. Notez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 5 et 6, qui nous dit « Vous êtes tous des fils, et j'ajoute des filles, de la lumière et du fils et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, c'est-à-dire ne pas être ivres, mais être discrets. Ceux qui manquent de vigilance et de discernement dans les jours mauvais que nous vivons, eh bien, ils doivent réellement être sous l'influence de la nuit et des ténèbres si ils veulent manquer le coche. Je répète, ceux qui manquent de vigilance, que ça nous arrive surtout pas, et qui manquent de discernement, eh bien, ils prennent des gros risques. Et ils risquent, comme je l'ai dit, d'être sous l'influence de la nuit et des ténèbres. Mais malheureusement, beaucoup qui se disent chrétiens ne comprennent même pas les termes bibliques dans les derniers jours et les temps de la fin. Sans doute sont-ils peut-être ivres à cause des plaisirs et des soucis quotidiens et ne discernent-ils pas les temps et les saisons? Je ne dis pas que tout est de leur faute. Il y a des circonstances dans lesquelles nous vivons qui sont terribles. L'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique, « Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes des fils et des filles de la lumière et des fils et des filles du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 3 à 5. Le mot « jour » est, je crois, « héméra » en grec. Et il signifie un laps de temps réservé au travail ou au labeur. Veut dire aussi une période de temps composée d'une nuit et d'un jour. Il peut vouloir dire aussi portion d'une période de 24 heures. Ainsi donc, les 3 jours et 3 nuits où Jésus était dans le tombeau selon Saint Matthieu, chapitre 12, verset 40, doivent être considérés comme étant le vendredi, portion du premier jour, la journée entière du samedi, le deuxième jour, et une partie du dimanche, le troisième jour. Ce mot s'applique aussi à la vie spirituelle. Dans certains passages bibliques, notez 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 14, Philippiens chapitre 1, verset 6 et le verset 10, et le chapitre 2, toujours de Philippiens, chapitre 16, et ajoutez 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Là, il parle du jour où le Seigneur Jésus paraîtra et qu'il prendra son Église avec lui, selon 1 Thessalonique, chapitre 4, verset 14 à 17. Donc, le jour de l'homme parle de l'opposition manifestée à la venue du Seigneur. Il révèle les desseins profonds du cœur humain opposé à la prise de pouvoir et à la totale souveraineté du Seigneur sur cette terre. L'homme voudrait se prouver à lui-même qu'il est capable de gouverner le monde dans la paix et dans l'ordre, et sans l'aide de Dieu, surtout sans l'aide de Dieu. Lui, Dieu, qui veut régner par son Fils Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, mais d'ores et déjà, l'homme s'est montré incapable de gouverner en paix et dans l'amour, car la lumière intérieure a été obscurcie par le péché. Regardez autour de vous. Quel est le pays qui est bientôt pas en guerre? Néanmoins, lorsque Jésus reviendra avec ses saints, Jude, verset 14, Jude, verset 14. Là, on voit que nous, les enfants de lumière, nous gouvernerons et nous régnerons avec lui, avec Dieu le Père et Jésus-Christ, sous la direction pendant 1000 ans. Nous régnerons sous la direction du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, pendant 1000 ans. C'est le millénium. Et ça, c'est dans die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 20, verset 4. Troisièmement, vivre à sa louange. L'apôtre Pierre a écrit, « Mais vous, vous êtes une race élue, vous êtes une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Dieu nous forme pour diriger et pour gouverner, mais cette position ne sera pas indépendante de lui. Le mot « acquis » signifie en plus « acheter », donc une possession, un sauvetage. Grâce soit donc rendue à Dieu qui nous a rachetés. Il nous a, vous et moi, rachetés pour être sauvés, afin d'être vus comme un peuple précieux à ses yeux, sorti des ténèbres et appelé à sa merveilleuse lumière. Or, chers amis, il se passera bientôt une chose merveilleuse. Quelque chose de merveilleux se passera bientôt pour le peuple acquis et élu de Dieu. Le jour du Seigneur se lèvera bientôt et l'étoile du matin brillera dans nos cœurs. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. Il a déjà planté sa semence de lumière en nous, en vous, et cette lumière explosera de l'intérieur vers l'extérieur de la même manière qu'au printemps les feuilles et les fleurs sortent. C'est parce que la vie se trouve dans le cep ou la branche que nous aussi nous éclorons. Il ne s'agit pas d'une gloire dont nous serions extérieurement parés tel un arbre de Noël. Non. Un arbre de Noël est orné et décoré, d'accord, mais il s'agit de celle de l'arbre fruitier dont les fruits et les fleurs, d'abord les fleurs, s'épanouissent subitement au printemps. Et notre beauté ne sera pas celle des parures extérieures, mais plutôt la conséquence de la vie de Christ en nous. La manifestation de la lumière en nous sera comme celle qui s'est faite miraculeusement sur la montagne de la Transfiguration lorsque il fut transfiguré devant eux. Et son visage, est-il dit, a resplendi comme le soleil, comme Moïse. Et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Saint Matthieu chapitre 17 verset 2. Donc à cette transfiguration, il nous sera donné un merveilleux vêtement rayonnant qui luira comme le soleil, et cette lumière transmettra la santé parfaite à chacun des cellules de notre corps, ou plutôt à chacune, c'est pas de l'allemand ça, à chacune des cellules de notre corps. Oh, quel jour glorieux que celui où nous nous séparerons pour toujours de la souffrance, de la douleur, du vieillissement et de tout handicap physique et mental. Il y a encore quelques jours, je ne pouvais presque pas parler. Eh bien, vous voyez, le Seigneur permet que ma voix soit suffisamment audible, claire, pour vous parler. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je te dois tout. Je ne mérite rien, mais tu me donnes tellement. Alléluia, merci pour ton amour. Nous serons donc, chers amis, transformés en un instant, en un seul instant, en un clin d'œil, est-il dit. Le charnel se revêtira du spirituel et la mortalité sera remplacée par l'immortalité. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image de la céleste, de l'image céleste. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49. Je veux redire cette phrase parce que j'ai eu un petit problème. Bon, alors, donc, il est dit, « Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous portons aussi l'image du céleste. » 1 Corinthiens 15, verset 49. Donc, ce fut cette gloire lumineuse qui transforma le visage de Moïse, rappelez-vous, dans la présence du Seigneur. Et il arriva que lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï avec les deux tables du témoignage dans sa main, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui, avec Dieu. Exode, chapitre 34, verset 29. Et voici donc la peau de son visage rayonnait, est-il dit. Et il craignirent, le peuple craigna de s'approcher de lui. Exode 34, verset 30. Moïse s'entretient donc, il s'est entretenu avec Dieu sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et alors qu'il contemplait le Seigneur de gloire, cette grande gloire lui fut transmise. Pour nous aussi, c'est lorsque nous communions avec le Seigneur, oui, que nous sommes transformés de gloire en gloire, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, l'image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, et le mot, ce mot transformé est un mot merveilleux. Cela veut dire métamorphosé et qui signifie aussi transformé, transfiguré. C'est ce même mot qui est utilisé en Saint Matthieu chapitre 17 verset 2 pour décrire la transfiguration de Jésus sur la montagne. Il implique donc le miracle de la transformation d'une forme humaine en une forme surnaturelle, changeant à la fois le corps et le vêtement de celui qui fait l'expérience de cette métamorphose. Cela révèle ce que seront les corps des justes dans les siècles à venir. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 à 54. En Romains, Römerbrief, chapitre 12, verset 2, et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, la notion de transformation s'applique au processus intérieur opérant déjà chez les chrétiens, alors que la lumière de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, comme le furent Jésus et Moïse. Dans le CD précédent, nous avons parlé de Satan qui se transforme en ange de lumière, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Dans le grec original, ce mot « transformé » est totalement différent de « transfiguré », donc « rayon » ou « revoyons tout cela tranquillement, si vous le voulez bien maintenant ». C'est-à-dire, transformer, cela signifie un changement extérieur et non pas intérieur. Je dis extérieur et non pas intérieur. C'est un changement d'apparence. Extérieur, c'est l'apparence, et non d'essence. Comme par exemple, une personne qui intérieurement nous détesterait toute en faisant semblant, avec un beau sourire, d'être ami. En Philippiens, chapitre 3, verset 21, le mot « transformera » ne veut pas dire que cette transformation sera seulement extérieure et non intérieure, mais qu'elle a déjà commencé dès maintenant depuis l'intérieur. Le mot « transfiguré » indique donc le changement de conditions et de forme. Il est utilisé quand il est question de la transfiguration de Jésus-Christ en Saint Matthieu, chapitre 17, verset 2, et en Saint Marc, chapitre 9, verset 2, et implique le miracle de la transformation d'une forme humaine en une forme surnaturelle, manifestée par la luminosité des vêtements et du visage, ce qui nous laisse supposer ce que seront les corps des justes dans le siècle à venir. Il indique un processus invisible qui s'opère ou qui commence à s'opérer dans la vie des chrétiens dès maintenant déjà. Quelle est donc la grande portée de l'effet de la lumière? Cette lumière est tellement forte, tellement puissante, qu'elle peut illuminer toute une région. C'est ce qui se passa en Égypte juste avant l'Exode. Lorsque les ténèbres tombèrent sur toute l'Égypte, Dieu déplaça tout simplement toute la lumière vers Goshen, région où habitait le peuple d'Israël. Dans Exode, chapitre 10, versets 22 et 23, nous lisons « Et Moïse étendit sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, 3 jours durant. On ne se voyait pas l'un l'autre, ni nul ne se leva du lieu où il était pendant 3 jours, mais pour tous les fils d'Israël, il y a eu de la lumière dans leur habitation. Le mot « épais » est « appella » qui veut dire « épaisse ténèbres ». Il est également utilisé au sens figuré pour exprimer la détresse, la calamité ou la misère. Dieu dit que ce serait même des ténèbres. Il y aura des ténèbres qu'on touchera de la main tellement que ce sera épais comme ténèbres. Exode 10, verset 21. Ce furent 3 jours d'enfer sur la terre lorsque toute l'Égypte se trouva tellement remplie de puissance des ténèbres que le peuple avait peur de bouger. Même la lumière naturelle d'une bougie ou d'une lampe ne peut jamais pénétrer ces ténèbres-là, car Dieu avait décrété qu'il ferait noir, comme il a décrété les ténèbres de l'enfer. Mais les enfants d'Israël ont eu de la lumière dans leur maison, parce que leur lumière intérieure attirait à eux la lumière de Dieu comme un grand aimant. Il en sera ainsi à l'heure de l'enlèvement de l'épouse de Christ. L'attirance entre l'époux céleste et son épouse et son amour, donc, sera-t-elle pour lui, ça sera merveilleux, il nous attirera tous à lui. Et voilà donc comment se fera le grand enlèvement, oui. Son fondement ne sera ni la renommée, ni la bonne réputation ou les bonnes œuvres, mais ce sera l'amour, la charité véritable. C'est la raison pour laquelle les cinq vierges folles n'étaient pas prêtes, hélas. Elles n'ont pas veillé à ce que leur lampe soit allumée, et lorsque il arriva, elles étaient dans le noir. C'est triste, elles n'étaient pas prêtes. Il y aura beaucoup de vierges folles, malheureusement, pour les chrétiens de l'Église, qui, étant négligents et souvent tellement indifférents face à la venue du Seigneur parce qu'ils n'y croient pas et ils ne seront donc pas prêts. Ça, c'est clair et net. Mes bien-aimés, veillez donc, veillons, à ce que votre lampe soit en état, que votre vie spirituelle soit en ordre et qu'il n'y ait aucun péché caché dans votre vie ni dans la mienne et que cette lampe brille ardemment. N'attendez pas. Jésus pourrait revenir aujourd'hui. Chers amis, les différents degrés de lumière sont symbolisés par l'illumination du tabernacle. Il y a différents degrés de lumière en chaque personne. Moïse a été instruit par Dieu dans le désert au sujet du tabernacle. Celui-ci fut divisé en trois parties. Primo, le parvis. Secondo, le lieu saint. Et tierso, le lieu très saint. Le parvis était éclairé par la lumière naturelle du soleil, de la lune et des étoiles. Cela nous parle de l'intelligence naturelle, mais charnelle, que reçoit tout homme à sa naissance. Elle se développe avec l'instruction et l'enseignement. Puis il y a la lumière du lieu saint, dont la source était un chandelier qui brûlait 24 heures sur 24. La fête de Hanouka commémore le miracle divin de la multiplication d'huile, afin que la lampe ne cesse jamais de brûler. Elle est comparée à la lumière de Dieu allumée dans nos âmes par sa miséricorde et par nos bonnes œuvres. Elle est donc bonne, mais elle n'atteint que le domaine de l'âme. Attention. Enfin, il y avait, heureusement, le lieu très saint qui n'était pas éclairé par des moyens naturels ni par l'homme, mais par la Shekinah de gloire qui reposait sur le propitiatoire. Il y en a tant dont l'intelligence reste simplement humaine et dont l'esprit ne peut grandir parce qu'il ne cherche jamais la face du Seigneur. Il se contente de se prélasser et met en vedette des personnalités religieuses. Cela veut peut-être dire qu'on dit parfois mieux un tout petit peu de religiosité que les ténèbres. Mais ce n'est pas du tout la plénitude de Dieu, cela. Dieu a révélé à l'un de ses serviteurs que dans ces derniers temps, il allait évacuer le lieu saint. Et lorsqu'il demanda des précisions au Seigneur, il lui répondit, « Mon peuple devra grandir en moi et devra rentrer dans le lieu très saint où je pourrai parler à leur esprit ou retourner sur le parvis, on peut dire le parvis du domaine humain et charnel de l'expérience religieuse. Et je vois cela arriver un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de religiosité superficielle. Lorsque David, alors qu'il était âgé, lorsqu'il a voulu partir en guerre avec son armée, ses conseillers militaires lui recommandèrent de ne pas y aller. « Tu ne sortiras plus avec nous pour la guerre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » C'est ce qu'ils lui ont dit dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 17. Ce mot « lampe » est « nir »,« nir ».